Radio Okapi. Okapi. Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Tati Mampoukou. Okapi.
Salutaires auditrices de Radio Okapi, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, votre magazine qui traite les questions de la vie au quotidien. Comment bénéficier de la formation universitaire à distance en RDC? Nous en parlons avec Monsieur Thierry Abankoui, il est chef des services en charge de l'enseignement ouvert et à distance au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Monsieur Thierry, bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous d'Okapi Service.
Bonjour monsieur le journaliste.
Nous aurons comme deuxième personne ressource pour cette première tranche d'Okapi Service, Madame Jessica Mpoutou, elle est chargée de projets éducation et santé. À la Fondation Vodacom, elle arrivera d'un moment à l'autre. Et si ce thème vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous nous ferons le plaisir de vous rappeler pour prendre la parole en direct. Par SMS, envoyez vos commentaires, questions et suggestions au numéro 099-706-9941. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous lisons par exemple les commentaires de Victor Mata, de Diba Aloubwe, qui encourage le déploiement de ces projets de formation universitaire à distance. Il fait remarquer cependant que dans les milieux comme la commune rurale de Diba Aloubwe, territoire de Diofa, dans les Kwilu, où il habite, cette ambition, c'est une réalité contraignante, hein, celle de l'accès limité à une connexion Internet stable et rapide. Nous entendons également vos commentaires dans le courriel dénommé service@radiokapi.net. Tati Mampoukou, c'est moi qui anime et coordonne ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Gloria Loutala est à la prise de son et réalise cette émission et Jean-Claude Ntiala s'occupe de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces rendez-vous d'Okapi Service.
Mon ton son, notre votre leur.
Le français parlons-en, c'est tous les samedis à 13h05. Rediffusion dimanche à 6h30, lundi à 14h20 et 20h15 sur Radio Okapi.
Parlons français. Le français parlons-en.
Le français parlons-en, un programme de Radio Okapi coproduit avec l'ambassade de France en RDC et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le français parlons-en, une autre façon d'apprendre et de parler le français.
Parlons français. Le français parlons-en.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Nous signalons également que Nelson Onyumbe et Paul Badianyama s'occupent de l'édition multimédia de ces rendez-vous d'Okapi Service. Comment bénéficier de la formation universitaire à distance en République démocratique du Congo? C'est de ce thème que nous sommes en train d'aborder dans cette première partie du magazine Okapi Service. Le numérique facilite aujourd'hui l'accès à l'éducation, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez suivre des formations ou accéder à un contenu éducatif de qualité par les biais des plateaux techniques dédiés. En RDC, la plateforme Voda Educ permet à de nombreux élèves d'apprendre les maths, les sciences informatiques et autres domaines du savoir. Et très bientôt, les étudiants pourront également se faire former grâce à cette plateforme digitale. Comment procéder pour bénéficier des ressources de cet outil numérique à travers les universités de la RDC? Nous en parlons dans cette première partie du magazine Okapi Service avec nos deux invités. Le premier, il est déjà là au studio. Il s'agit de Monsieur Thierry Abankoui. Nous rappelons qu'il est le chef des services en charge de l'enseignement ouvert et à distance au ministère de l'ESU. Et notre deuxième invité qui est en train d'arriver, elle s'appelle Jessica Mputu. Elle est chargée des projets éducation et santé à la Fondation Vodacom. Dites-nous, Monsieur Thierry, qu'est-ce qu'on entend par les concepts ou les paradigmes formation à distance?
Merci beaucoup, Monsieur Tati, pour la question. Je crois que cette question va nous amener plus loin à une deuxième question de pourquoi l'enseignement à distance.
Exactement.
Mais je voulais d'abord que nous puissions noter qu'il y a une petite nuance lorsqu'on parle de l'enseignement à distance et à des, et lorsque l'on parle de l'enseignement ouvert et à distance. Bien évidemment, les deux concepts renvoient à une méthode d'apprentissage où les apprenants et les enseignants ne sont pas physiquement
dans le même local.
Mais la nuance que je vais apporter par rapport à l'enseignement ouvert, c'est-à-dire un enseignement où l'accessibilité est donnée à tout le monde à tout moment.
De manière permanente.
De manière permanente. Donc, en ce moment-là, l'accès pour la formation et au contenu par la plateforme est donné à tout le monde. Donc, on n'est pas seulement à distance par rapport à l'espace géographique, mais on a aussi la possibilité de l'accessibilité à tout moment.
Et la singularité, c'est la formation, comme on dit, à distanciel.
Voilà.
L'enseignant peut ne pas être sur place, tout comme l'apprenant, et les deux interagissent. Par le biais d'une plateforme technique.
Une plateforme technique, et c'est d'ailleurs une innovation de notre loi cadre de l'enseignement national qui a retenu l'enseignement ouvert et à distance comme une option fondamentale de l'éducation. Donc, on n'est plus lié à rester ensemble, et même à distance, à distanciel, on peut assurer la formation. Et c'est pourquoi je disais, cette question va nous ramener plus loin à la question pourquoi.
Voilà. Oui, alors pourquoi le déploiement de l'enseignement à distance en République démocratique du Congo? Quelle est l'importance ou l'impact de ce type de formation?
Voilà, monsieur le journaliste, il faut noter que la politique de notre gouvernement est d'assurer un système éducatif équitable, performant et inclusif. C'est-à-dire, on s'est rendu compte qu'avec l'enseignement actuel basé essentiellement sur le présentiel, il y a des limites. Les limites, notamment avec les phénomènes que nous appelons la massification des étudiants dans les
auditoires.
Moi-même, là, j'ai étudié dans un auditoire où nous étions à 2500 étudiants. Et un deuxième problème, c'est le problème de la relève académique. Nous avons beaucoup de personnel enseignant ici au Congo, mais qui ne peuvent pas avoir des bourses pour se déplacer, laisser leur job ou leur foyer pour aller ailleurs. Et aussi le troisième défi, c'est la mobilité des enseignants. Vous vous rendez compte que la plupart des filières que nous organisons, nous n'avons pas de spécialistes. Et il faut les faire venir ailleurs. Cette mobilité est très coûteuse pour l'État congolais.
Tout à fait. Parce que
les établissements appartenant à la plupart à l'État, c'est les trésors qui doivent faire sortir les gens pour faire venir. Et vous avez appris qu'il y a eu une année où la faculté de médecine était presque fermée parce qu'il n'avait pas d'enseignants qualifiés qui devaient venir. Et aussi, il faut ajouter à cette mobilité qui est non seulement coûteuse, mais aussi très risquante parce que la moyenne d'âge de nos enseignants, c'est 65 ans. Or, avec nos infrastructures routières actuelles, et les moyens de déplacement qui posent parfois défaut, il est difficile pour eux de répondre aux exigences professionnelles. Voilà qui fait qu'il est maintenant nécessité d'implémenter l'enseignement ouvert et à distance comme un nouveau mode d'enseignement dans notre système éducatif.
Et est-ce que l'expérimentation a déjà débuté? D'abord au niveau de l'éducation des bases, oui, par le biais du projet Vodaedic de la Fondation Vodacom.
Oui, il faut signaler ici que l'enseignement ouvert et à distance a une histoire au niveau de notre ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Fort des limites que je viens d'évoquer ici par rapport à l'enseignement basé sur les présentiels, il a été recommandé d'abord par la SADC, parce que la RDC est un des membres de l'organisation, en 2011, que l'on puisse implémenter l'enseignement ouvert et à distance, notamment ici en RDC. Et l'annonce a été faite pour votre information à Matadi, à l'hôtel Lédia. C'était en 2011. Et en 2012, il avait plu à son excellence, paix à son âme, à l'époque, Machak, membre professeur, qui avait créé toute une direction. l'enseignement ouvert
déjà en 2012.
En 2012.
Oui. Et l'avènement de Covid-19 est venu accélérer les choses parce que tous on était contraints de travailler à distance. C'était une période assez compliquée et les élèves ne devraient pas aussi rester à la maison sans pour autant continuer à apprendre.
Mais il y avait encore des difficultés par rapport à l'enseignement supérieur et universitaire.
Tout à fait.
Parce que il a eu la recommandation de 2011, il a eu la création de la direction en 2012 et en 2014, le 11 février 2014, par la loi cadre de l'enseignement national, l'État congolais s'est approprié de cette recommandation de la SADC. Ainsi, l'enseignement ouvert à distance devient l'une des options fondamentales de l'éducation. Mais depuis 2014, il n'y a pas eu de mesures d'application parce que une loi ne donne que le principe général.
Donc le projet s'est arrêté d'abord aux normes réglementaires, au fait.
Aux normes réglementaires et on s'était pratiquement arrêté. On est resté. Il a fallu attendre 2024 pour que, avec la collaboration de l'UNESCO, que l'on puisse maintenant revenir encore à la charge. On a eu deux ateliers en 2024 pour élaborer la feuille de route des activités parce que nous sommes dans un processus. Le processus doit suivre aussi certaines normes pour que ça puisse être bien implémenté. Après les ateliers avec l'UNESCO, que je salue d'ailleurs en passant, il y a eu les tout premiers arrêtés comme mesure d'application de la loi cadre. C'est l'arrêté numéro 004 du 6 février 2025. Notre ministère, pour votre information, venait d'avoir une dame pour la première fois comme ministre, et c'est pour la première fois que nous avions eu un arrêté portant organisation et fonctionnement de l'enseignement ouvert et à distance en RDC. Et donc, ceci est un instrument qui vient maintenant encore appuyer la loi cadre. Mais ce n'était pas encore fini.
Oui, là on est encore au stade réglementaire.
Réglementaire.
Hein, depuis 2019,
voilà.
2011, vous avez dit.
2011.
À nos jours, donc on est encore au stade
on
réglementaire.
Était encore dans les... Oui.
Voilà. Monsieur Thierry, s'il vous plaît, dans ces rendez-vous, nous donnons également la parole à la population ou aux auditeurs qui sont intéressés par les sujets. Permettez-nous d'aller au standard pour donner la parole aux auditeurs et puis on revient ici pour continuer notre émission. Comment bénéficier de la formation universitaire à distance en République démocratique du Congo? C'est de ces sujets que nous sommes en train d'aborder dans ces rendez-vous d'Okapi Service. Et si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Le intouchable, dans ces pays, n'existe pas.
Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Le premier auditeur, il intervient depuis la ville de Kisangani dans la Tchopo. Il s'appelle Blaise Saïdi. Bonjour monsieur Blaise, bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour cher Tati, bonjour à nos invités.
On parle de comment bénéficier de la formation universitaire à distance en RDC. On vous donne la parole. Est-ce que vous avez un avis à émettre à ce sujet?
Aujourd'hui, dans notre pays, il y a assez d'innovation dans l'enseignement. À ce qui concerne l'enseignement à distance, dans notre pays, comme j'avais dit, il y a plus d'innovation dans le secteur d'enseignement. Permettez, cher Dadi, de parler quelque chose avant de jeter à quelques questions. Aujourd'hui, je prends dans l'enseignement de base. Dans l'enseignement de base, sixième éducation de base, j'ai dû se parler de sixième primaire, avec les innovations, des nouvelles appellations, où on quitte de l'école primaire à l'éducation de base, de l'école secondaire aux humanités. Cher Tati, aujourd'hui, depuis cette innovation, depuis cette réforme, les enfants, les élèves des sixième primaire, sixième éducation de base, continuent encore à passer l'examen de TENAFEP. Alors, avec cette innovation, on ne devrait plus passer l'examen de TENAFEP, on devrait juste passer le TENASOSP.
Allô, monsieur Blaise, allô.
Depuis qu'on a commencé à passer l'examen de TENASOSP, les enfants n'ont jamais réussi le certificat, cher Tati. C'est un problème trop sérieux dans notre pays.
Oui, mais
on ne doit pas toujours
monsieur
aller
Blaise.
À des réformes pendant
oui.
que non, on ne respecte pas les normes.
Monsieur
cher Tati,
oui.
La loi cadre numéro 14-004 du 11 février 2014 relative,
la communication se désagrège avec monsieur
Blaise comme oui. composante essentielle du système éducatif national. Cher Tati, bien que l'enseignement à distance soit inscrit dans la loi depuis 2014, sa mise en œuvre pose des difficultés énormes. Cher Tati, je vais poser quelques questions aux invités.
Allez-y.
La première question, quels sont les objectifs de l'enseignement à distance en RDC selon la loi? La deuxième question, quels sont les défis identifiés dans la mise en œuvre de l'enseignement à distance en RDC? La troisième question, pourquoi la mise en œuvre de l'enseignement à distance a-t-elle été lente après l'adoption de la loi? Et pour chuter, à quoi l'enseignement à distance peut-il répondre aux besoins des zones rurales et enclavées? Je me limite à ces quatre questions, cher Tati, pour que nos invités permettent au public et à nous autres de nous édifier à ce qui concerne l'enseignement à distance en RDC, cher Tati.
Merci beaucoup, M. Blaise Saïdi. Nous rappelons que vous avez pris la parole depuis la ville de Kisangani, dans la Tchopo. On retourne ici à Kinshasa, M. Thierry, pour donner la parole à Maître Christian Politassi. Bonjour et bienvenue dans Capi Service, Maître.
Bonjour, bonjour Tati, bonjour à l'invité.
On vous donne la parole.
Merci de la parole accordée. Tati, la formation professionnelle pour nous, en tout cas, a été d'une grande importance pendant la COVID-19 en 2020 dans notre pays et même avant cela. Et donc, cette formation a permis au monde scientifique d'avoir des répondants adéquats. Et aujourd'hui comme hier, cette nouvelle technologie a facilité la mise à niveau des chercheurs et étudiants dans plusieurs domaines de la vie nationale. Mais cependant, il y a lieu quand même de dire que cet outil est confronté par des limites d'ordre logistique, énergétique et environnemental. Et parmi ces difficultés, nous pouvons citer, ou en termes de détails, nous pouvons dire qu'il y a des difficultés liées à la disponibilité même des outils informatiques. Ce n'est pas tout le monde qui a un ordinateur, ce n'est pas tout le monde qui a un téléphone smartphone à jour.
Et même la qualité de la connexion Internet également. Parfois, c'est désagréable. Ça, il faut le connaître.
Tout à fait. Et même la qualité, comme vous venez de le dire, la connectivité sur Internet pose énormément de problèmes. Il y a également le problème sur le coupure intempestive du courant électrique.
Ou l'accessibilité, tout simplement, à l'énergie électrique.
Tout à fait. Exactement. Vous voyez que c'est en fait une innovation, mais qui se retrouve à des difficultés. Et donc, il faudrait une solution. Il faudrait que le gouvernement travaille avec ses partenaires pour que nous puissions bénéficier sans dépenser beaucoup trop d'énergie, bénéficier de ces avantages que le numérique nous offre. Il y a un autre élément, c'est en fait la non-adaptabilité de l'administration à cet outil. Donc, nous avons aujourd'hui une administration qui fait toujours recours au papier, il n'y a pas la digitalisation de, des documents. Donc, de telle sorte que si vous voulez faire l'inscription ou chercher l'emploi, vous devez vous munir de vos documents en main et aller déposer. Et 2-3 ans après, si ces documents se perdent, vous n'aurez plus d'autres traces parce que l'archiviste se retrouve inondé par des documents vieux comme le monde.
Oui. Et il y a également.
Des documents qui datent de 1900.
Il y a également à mettre les défis liés à l'expertise des formateurs, des enseignants sur l'utilisation de l'outil des formations à distance.
Exactement. C'est vraiment un déficit criant.
Alors, vous avez des questions précises, maître, parce que vous n'êtes pas les seuls. Il y a d'autres auditeurs qui attendent.
Tout à fait. Mmh. En termes de questions, je dirais, est-ce que dans l'arrière-pays, quels sont les mécanismes mis en place pour que ceux qui se retrouvent dans des villages puissent bénéficier quand même de ces formations au même titre que ceux qui sont à Kinshasa ou dans de chefs-lieux pour que nous ayons une éducation, je dirais, uniforme sur l'ensemble du territoire national? Donc voilà un peu ma question.
Merci beaucoup, maître Christian. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Excellente journée. Je précise également que la question de maître Christian se recoupe avec celle, le témoignage de Victor Mata, d'Ibayaloubwe, qui encourage les déploiements de ces projets de formation universitaire à distance. Il fait remarquer cependant que dans les milieux comme la commune rurale de Ibayaloubwe, territoire de Diofa, dans les Kwilu où il habite, cette ambition se heurte à une réalité contraignante, notamment difficulté d'accès limité à une connexion Internet stable et rapide. Et alors que la technologie G3 est dominante, elle ne permet pas une utilisation, une bonne utilisation des plateformes éducatives modernes comme Vodaedic. Et cette situation risque de pénaliser les étudiants qui sont à l'intérieur du pays. On vous donne la parole, Monsieur Thierry.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Commencez par les premiers auditeurs, hein.
Oui, je suis, très content parce que leurs préoccupations sont très pertinentes. Je voulais rappeler par rapport d'abord à monsieur Saïdi, pourquoi la mise en œuvre de l'enseignement ouvert à distance a tardé alors que la loi cadre date de 2014, comme on faisait le point avec vous tout à l'heure. La mise en œuvre nécessitait en fait deux parties. D'abord, mettre un arsenal juridique en place, et là je vous ai informé qu'il existe le tout premier arrêté portant mise en œuvre de donc, l'organisation de fonctionnement. Il y a aussi un cadre organique, parce que les services de l'État sont créés par la fonction publique.
Oui, même si ça ne doit pas prendre 9 ans quand même.
Bon, il faut dire, il faudrait dire qu'il y a, il y a la volonté politique vue à tous les enjeux de l'heure. D'une part, il y a tout ce que vous connaissez, mais maintenant il y a une volonté politique réelle, mieux vaut tard que jamais.
D'accélérer les choses.
Ok, mieux vaut tard que jamais. Alors, par rapport aux préoccupations des auditeurs.
Il a parlé des objectifs de la formation à distance.
Oui, des objectifs, comme j'ai dit tantôt, c'est assurer la relève académique. Donc, faciliter à tous nos chercheurs qui ne peuvent pas se déplacer, mais tout en restant ici, en RDC,
ou à Kisangani, où il est.
Il peut prendre une inscription quelque part et faire sa formation. Et d'ailleurs, même vous aussi, vous pouvez toujours aussi perfectionner votre formation en prenant une inscription en bonne et due forme et continuer grâce à l'enseignement ouvert et à distance. C'est l'un des objectifs.
Oui. Je suis par exemple ici dans mon bureau, à 14, je me connecte à la faculté des sciences de l'information et de la communication de l'UNIKID.
Tout
et je suis
fait.
Les cours.
Tout à fait. Et désolé, comme j'ai dit, c'est réduire la mobilité des enseignants. Parce que cette mobilité, dites-vous que ça coûte très cher au trésor public. Et l'enseignement ouvert à distance, parmi les objectifs, donc ça vient réduire cette mobilité des enseignants et donner alors l'accès à l'éducation pour tous. Donc voilà un peu les objectifs de l'enseignement ouvert et à distance. Alors, on a parlé de l'adaptabilité à cet outil. Mais c'est pourquoi la mise en œuvre nécessite d'une part l'arsenal juridique des textes, mais d'autre part aussi le partenariat que nous avons avec nos partenaires. Parce que le partenariat, c'est d'ailleurs légal chez nous. La loi cadre a institué le partenariat comme une des options aussi fondamentales de l'éducation. Et c'est la raison pour laquelle, pour bien assurer l'implémentation de cet enseignement ouvert à distance ou de ce mode d'enseignement, nous recourons aux partenaires dont Vodacom. Et c'est grâce à ces partenaires qui ont une expertise et qui donnent facilement l'accès à la connexion que l'État peut s'appuyer sur eux pour que nous puissions donner l'accès même dans les zones rurales, même dans, qui, dans les parties reculées du pays. Voilà pourquoi le partenariat avec Vodacom, étant donné, et surtout parlant maintenant de Vodacom, Vodacom est venu maintenant, au-delà des textes maintenant que nous avons, maintenant nous sommes dans l'opérationnalisation.
Oui, mais en même temps aussi, Patrick Saïdi, sa préoccupation concernant des défis liés à l'implémentation ou au déploiement de la formation à distance dans les universités de la RDC, il a cité entre autres les défis liés à la connexion, à la qualité de la connexion Internet de presque tous ces opérateurs qui sont ici en RDC, y compris également difficultés liées à l'électricité. Est-ce que tous ces défis-là auront des réponses avant le lancement ou le déploiement de ces types de formations?
Nous n'allons pas attendre ou attendre que nous puissions tout réunir pour que nous puissions aller. Non, non. Nous allons petit à petit, avec les moyens de bord, avec tout ce dont dispose l'État et ses partenaires, et nous allons perfectionner au fur et à mesure. Oui, il y a des défis liés à l'accès à l'électricité. Autant que l'État s'emploie de son côté pour donner l'accès à l'électricité ici et là, autant l'État compte aussi sur ses partenaires pour que on puisse avoir de l'électricité dans les zones où il n'y en a pas.
Il a même évoqué l'aspect aussi lié à l'outil d'apprentissage tel que le téléphone Android ou iPhone ou l'ordinateur.
Oui, et c'est pourquoi dans cette mise en œuvre, ou dans ce processus de mise en œuvre, nous insistons sur l'aspect formation de cadre de l'administration, mais aussi les administratifs et même eux-mêmes les enseignants, parce que dites-vous que la plupart d'enseignants n'ont pas fait la mise à jour la mise à jour de leurs connaissances sur l'outil
informatique.
Alors c'est pourquoi avec les partenaires, nous mettons en place une priorité sur la formation du cadre des enseignants et des administratifs pour que nous puissions assurer. Dites-vous que le train a démarré et petit à petit, nous sommes en train de mettre l'arsenal en place pour que nous puissions aller. Mais nous n'allons pas attendre parce que nous sommes déjà en retard. Vous avez déjà constaté 2014 jusqu'à 2025, déjà pratiquement 11 ans en retard, mais nous devons déjà y aller.
Commencer quelque part. On retourne au standard, Monsieur Thierry. Il y a deux autres auditeurs qui attendent, qui veulent prendre la parole. Le premier, il intervient de Kinshasa, c'est Maître Gaston Gandou. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour, Tati. Je suis aussi invité qui est avec vous.
Merci. On vous donne la parole.
Je voulais me demander si le titre obtenu de par cette formation a une valeur dans notre pays. Est-ce qu'après la formation, il y a un titre qu'on octroie ou c'est juste acquérir des connaissances et vous en faites ce que vous voulez?
Ah, merci beaucoup. Il y a également un internaute qui a posé cette question-là, qui a voulu savoir la valeur qu'aura ces diplômes délivrés par les biais de la formation à distance.
Je voulais dire une autre chose. Vous savez, non, le problème, c'est quoi? C'est de savoir faire des recherches sur l'Internet qui est à notre portée actuellement. Lorsque nous ne recherchons pas grand-chose d'abord, je ne pense pas que nous aurons le temps d'aller suivre une formation quelconque à ligne. L'Internet est là, tout le monde devrait se former, commençant par les étudiants qui fréquentent nos universités, mais aussi les instituteurs devraient se former. Hein? Mais on se contente des pitinités. Pensez-vous que lorsque il y aura une formation quelconque, ils vont être concentrés? Moi, je pense que non. Donc, on est vraiment emporté par des distractions que pour les bonnes choses. Hein? Nous n'avons pas d'intellectuels aujourd'hui parce que les gens ne savent plus faire des recherches ou des chances, des choses utiles.
Oui, mais maître, s'il vous plaît.
Je préfère suivre.
Oui, maître, s'il vous plaît, que l'on se comprenne. Êtes-vous d'accord ou ne trouvez pas l'importance de lancer ce type de formation en RDC, un pays à dimension continentale?
Non, l'importance, il y en a. Mais je pense que le moyen est déjà là. Nous avons l'Internet, nous avons toutes les données sur Internet actuellement.
Oui, mais ça c'est...
Je vous donne un petit exemple.
S'il vous plaît, maître, ça c'est de l'auto-formation. Mais s'il faut certifier les connaissances acquises par l'auto-formation, vous n'aurez pas ça à la maison, il faut aller dans une institution reconnue officiellement. D'où la mise en place de cette
plateforme. C'est là où je voulais poser cette question de savoir si cette formation sera sanctionnée par un titre qui sera reconnu mondialement sur le plan interne. Si c'est ça le cas, c'est vraiment une innovation. Moi, j'ai pris, je trouve aussi mal hein, qu'on octroie un titre à une personne qui a suivi une formation à distance et ce titre-là soit. Non, la formation à distance devrait compléter la formation que nous obtenons dans la pratique, hein, dans notre université, que nous, je ne sais pas voir. Nous avons des bibliothèques, mon cher, je vous dis, les gens ne rentrent pas là. Si on ne lit pas d'abord ce qui est sur le plan du papier, pensez-vous qu'ils vont prendre le temps de lire ce qui est numérique?
Merci beaucoup, maître.
Les gens aussi, ne sont pas vraiment intéressés par aussi, la numérisation.
Oui, ça c'est vrai, vous avez raison. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. C'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Oui, c'est vrai, parce que nos bibliothèques ne sont presque pas fréquentées, alors que les études se font sur base de documents physiques. Et voilà. Alors, si on ajoute encore la formation à distance, ça risque d'être compliqué d'après vous. Merci beaucoup. L'invité aura le temps de mettre son avis par rapport à tes préoccupations et ta question principale hein, sur la valeur des diplômes qui seront délivrés par les billets après la formation, au terme de la formation à distance. Nous partons cette fois-ci à Kisangani pour donner la parole à Thomas. Thomas, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour, pardon, bonjour monsieur Tati, et bonjour à l'invité, ainsi qu'une fois de plus aux auditeurs de la radio Okapi. Monsieur Tati, d'entrée déjà, en tout cas, la formation à distance est devenue une option de plus en plus populaire pour les étudiants du monde entier, où on voit en tout cas la connexion, la formation à distance, ça, c'est même pas seulement pour les étudiants, mais ça touche presque beaucoup d'aspects où ça devient peut-être multidisciplinaire là. Mais ça prend des allées là, vous voyez presque. Et même il y a des conférences qui se font à travers, il y a des formations par-ci par-là dans n'importe quel domaine là, en ligne. Et c'est en tout cas quelque chose de très, très intéressant. Où on voit avec, en tout cas, l'avancée technologique, désormais même quelqu'un peut avoir un diplôme à suivant ces conférences en ligne. Vous voyez cet aspect, ça même se rendre au campus, par exemple, pour nous les étudiants, il y a des gens qui peuvent avoir des diplômes. Ça pour autant fréquenter les universités ou les campus, mais seulement vous êtes à la maison chez vous, vous suivez la formation à la fin, vous avez votre diplôme. Ça pour autant même être sur place, c'est-à-dire physiquement. Ça témoigne combien de fois, en tout cas, la formation en ligne, là où les avancées technologiques sont vraiment très importantes, c'est avancé quant à ça. Mais également, monsieur Tati, il y a beaucoup d'avantages, à part ce que je venais à peine de dire. Il y a, par exemple, l'économie du temps et d'argent. C'est-à-dire, au lieu, par exemple, de gaspiller autant d'argent pour aller peut-être à Kinshasa pour étudier, l'argent que vous devez se focaliser pour le transport, vous pouvez seulement payer l'argent par exemple, de la formation et ça facilite l'argent au lieu de payer, par exemple, les transports, après payer aussi les académies, par exemple, pour nous, les étudiants. Vous pouvez, avec l'argent seulement des transports, là, assumer déjà les frais de la formation et vous êtes seulement à la maison, là, vous suivez, vous, la formation. C'est-à-dire, il y a l'économie de vous, lorsque vous suivez la formation en ligne, ce n'est pas, en tout cas, tous les jours, comme on est à l'université, vous pouvez être à tout moment, il y a des temps où c'est bien réparti, en tout cas. Par exemple, vous pouvez suivre les formations à 10h, à 3h, ça réduit un peu l'état, mais également l'argent. C'est-à-dire, la formation à distance, ça économise un peu du temps et de l'argent. En plus, parce que vous n'êtes pas obligé d'être sur place à l'université, mais également vous gaspillez moins par rapport à quelqu'un par exemple qui devait quitter Bouya, par exemple qui s'en a mis, payer les frais, payer ensuite les frais académiques. Il y a aussi par exemple monsieur Tati, il y a les actions virtuelles parce qu'il y a la technologie dans ça. Je prends l'exemple par exemple du groupe WhatsApp, par exemple, des paroles aux auditeurs. Avec ce groupe là, il y a l'interaction, même si la formation à distance vous ne pouvez pas être physiquement, c'est-à-dire face à face, mais grâce à l'interaction virtuelle, grâce à des groupes WhatsApp, là, vous pouvez interagir même avec d'autres gens que vous ne vous connaissez même pas. Je prends le groupe WhatsApp des parents, il y a des juristes, il y a des professeurs, tout le monde est presque des tendances là, se retrouve dans ce groupe-là. Et avec ça, vous pouvez ça fait à ce que vous êtes formé, il y a l'animation au sein du forum, parce que vous vous retrouvez avec beaucoup de gens, même si vous n'êtes pas physiquement, vous ne vous pas ça, mais grâce au groupe, par exemple, WhatsApp, vous pouvez vous familiariser, vous pouvez avoir des formations par-ci, par-là, parce qu'il y a des intervenants qui interviennent dans plusieurs pays, en fait, parce que la radio est suivie presque partout. Mais j'ai des questions.
Allez-y rapidement, poser, cher Thomas, il y a d'autres auditeurs qui attendent. Oui.
La première question, monsieur Tati, quels sont les avantages de la formation à distance par rapport à l'apprentissage partiel? Quels sont en tout cas les avantages de la formation à distance par rapport, par exemple, vous pouvez être sur place, c'est-à-dire par rapport à face à face comme ça, quels peuvent être les avantages? La deuxième question, monsieur Tati, quels sont les défis auxquels les établissements d'enseignement supérieur sont confrontés lors de la mise en place, lors de la mise des programmes de la formation à distance? Je ne sais pas, parce qu'on a les LMD, même si les LMD n'a pas compris, en tout cas, de la mayonnaise là. Je ne sais pas, par rapport à la formation à distance, je ne sais pas quels sont, en tout cas, les défis auxquels surtout les institutions universitaires sont-elles confrontées face à ça. Parce que, je rappelle, par exemple, les LMD, ça prône à ce que l'étudiant doit être au centre de sa formation. Est-ce l'LMD exige à ce que l'étudiant puisse avoir des ordinateurs, puisse avoir la connexion Internet, doit être dans des institutions. Mais pour, par exemple, la formation en ligne, je ne sais pas quels sont les défis auxquels sont confrontés les institutions d'enseignement supérieur. La troisième question, monsieur Tati, quel est en tout cas l'élément essentiel pour prendre en compte, pour donner en tout cas des garanties à la qualité des programmes d'enseignement à distance? Je ne sais pas si l'invité pourra me donner quels sont en tout cas les éléments essentiels à prendre en compte, l'or qui pourra en tout cas garantir la qualité du programme d'enseignement à distance. Et je vais citer par la troisième question, monsieur Jody, qui est aussi très important. La troisième question, c'est en rapport à l'évaluation, monsieur Tati. C'est bien, vous, on est en ligne, là, on peut suivre des formations en ligne. Quelles sont, en tout cas, comment les évaluations ou les examens sont-ils gérés dans les cas de formation là? Je ne sais pas quelles sont les techniques qu'on pourrait utiliser, parce que quelqu'un, lorsque vous êtes dans des auditoires là, il y a des surveillants, mais lorsqu'il y a les examens, les évaluations après peuvent se passer, vous êtes en ligne. Quels sont les mécanismes qu'on peut faire pour contrecarrer tout cet aspect-là, par exemple des tricheries, comment l'éviter pourra en tout cas nous donner des réponses? Quels sont en tout cas comment les évaluations ou les examens peuvent-ils être gérés dans le cadre du contexte la formation à distance? Sinon, monsieur Tati, c'est pas ça.
Merci beaucoup.
Mes quatre petites préoccupations que j'avais à l'inviter.
Merci beaucoup, monsieur Thomas, mais en même temps aussi, la première question, je pense que il faut la reformuler, parce que vous avez déjà évoqué les différents problèmes, les différents défis liés au lancement de l'enseignement à distance ici en RDC. Vous voulez exactement savoir les avantages qu'il y a de la formation à distance par rapport à une formation en présentiel?
Oui, exactement. C'est-à-dire, quels sont les avantages qu'on pourra utiliser plus à distance? Quels sont en tout cas les avantages plus qu'à distance qu'à présent? C'est-à-dire, quelqu'un qui suit la formation à distance, quel est l'avantage qu'il pourra utiliser beaucoup plus à la personne qui suit la formation, c'est-à-dire face à face avec l'enseignant? C'est ça, cela.
Merci beaucoup, Thomas. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kisangani que vous intervenez. Cette fois-ci, on part à Goma pour donner la parole à M. Franck Bariré. Il est géologue. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour, messieurs les journalistes, et bonjour pour la parole m'accordée.
Le temps s'égrène vite, on vous donne la parole rapidement.
Merci. J'aimerais juste adresser deux questions à l'invité du jour. Et il a été constaté que l'enseignement en ligne dans le pays développé est déjà beaucoup plus amélioré, mais ici chez nous en RDC, nous avons encore un grand problème, et surtout avec l'avenir de ce système LMD. Même jusque-là, il a été constaté que la formation de nos étudiants, la formation de nos enfants n'est pas du tout au top. Alors, Moi, j'avais deux questions à adresser à l'invité. La première question est celle-ci. Il a été constaté que c'est possible de suivre les cours universitaires en ligne, mais il y a toujours de facultés qui diffèrent du point de vue théorique et du point de vue pratique. Par exemple, si vous prenez l'exemple de la faculté des droits comparativement à la faculté des sciences comme les mines et géologie, c'est vraiment
la polytechnique, oui.
Quand on suit le cours en ligne, par exemple, dans notre faculté de droit, soit plutôt dans notre faculté de mines et géologie, ça devient compliqué. Il y a des cours qui nécessitent le terrain. Alors, je ne sais pas avec la formation en ligne si c'est possible de développer les notions de terrain là en ligne. C'est ça la première question.
Mais vous savez également qu'il y a des formations à distance en mode hybride, c'est-à-dire la partie théorique, il y a un plateau technique dédié et puis la pratique, on invite l'étudiant par exemple à se déplacer ou à aller en stage dans un autre pays ou dans une autre ville.
Oui, ça existe bien sûr. Raison pour laquelle quand on fait l'enseignement en ligne dans certaines facultés, il sera toujours impératif que l'étudiant puisse se déplacer et aller suivre la partie pratique sur terrain.
Vous avez une autre préoccupation, voilà, monsieur?
Oui. La deuxième préoccupation, ça cadre avec l'évolution de l'enseignement dans notre pays. Aussi, il a été constaté que beaucoup de nos enseignants qui donnent cours à des universités sont partants. Et donc, ils ont déjà un âge plus qu'avancé là.
Oui.
Alors, je ne sais pas quelles sont les techniques mises en place par les pays, soit par les gouvernements, pour contribuer à leur relève.
Oui, et puis ce qui est vrai aussi, la majorité de ces enseignants-là, ils ne suivent pas l'évolution technologique. Donc, ça, c'est encore un défi, hein.
C'est ça le grand problème. Ils ne se mettent même pas en jour. Et le grand problème est qu'on se demande, parfois il y a des bourses d'études au niveau national, mais ces bourses sont limitées seulement pour les gens qui sont à Kinshasa. Mais quand vous arrivez dans d'autres provinces, en tout cas, c'est très compliqué. Et il y a certains enseignants qui viennent donner cours à des universités, mais ils ne veulent pas que les assistants et les chefs de travaux puissent aussi émerger et arriver à leur niveau. Parce que si ces derniers arrivaient à ce niveau-là, ils risquent de devenir des profs et parfois on les remplacer.
Merci beaucoup, Monsieur Franck. Hein. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Goma que vous intervenez. Monsieur Thierry, comment répondez-vous à nos auditeurs? Excellente journée au niveau de la ville de Goma, au Nord Kivu.
Merci beaucoup, Monsieur le journaliste. Je voulais d'abord rassurer Maître Ngando depuis Kinshasa et à tous nos auditeurs qu'aujourd'hui, l'arsenal juridique devra garantir les titres obtenus en ligne sont déjà donc est déjà en place. Donc, l'arsenal juridique est déjà en place. Grâce à la volonté affichée par Madame la ministre, que je salue en passant, nous avons obtenu l'arrêté portant organisation et fonctionnement de l'enseignement dans nos établissements. Nous avions obtenu le cadre organique qui a créé maintenant la direction de l'enseignement ouvert et à distance avec les attributions, entre autres, la reconnaissance des diplômes ou des titres obtenus en ligne. Et il y a un arrêté qui crée même la commission qui puisse examiner tous les diplômes obtenus en ligne. Donc, de ce côté-là, les auditeurs peuvent être rassurés que sur les plans juridiques, tout l'arsenal est déjà mis en place.
Mais en même temps, il a dit en termes de qualité, l'enseignement à distance ne va jamais remplacer ou s'égaler à l'enseignement présentiel.
J'ai dit que c'est une révolution et une révolution n'est pas toujours bien acceptée par tout le monde. Et puisque c'est une réforme, on y va toujours graduellement par essais et erreurs.
On corrige le système avec les temps.
Voilà,
tel que l'auditeur qui a dit qu'en Europe, ils sont très avancés en termes d'enseignement à distance.
Voilà. Pour aller par rapport à la préoccupation de M. Thomas depuis Kisangani, il parlait de mécanismes pour l'évaluation. Oui, mais je signale aussi ici qu'il y a aussi un arrêté qui met en place les critères pour organiser l'enseignement ouvert à distance.
Ainsi que les épreuves, les examens.
Voilà, et comme vous avez si bien dit, l'enseignement ouvert et à distance n'est pas seulement un enseignement totalement en ligne, mais un enseignement au terme même de l'arrêté 004, mais aussi un enseignement accepté en hybridation. Donc on peut faire une partie en ligne, on vient pour les épreuves ou pour terrain, qui on y va.
Et ça, pour la soutenance, vous venez en présentiel par exemple.
Par exemple, on peut le faire en ligne ou en présentiel, et tout ça, ça fait partie de l'enseignement ouvert et à distance. Et donc les mécanismes pour assurer les évaluations, le contrôle, tout ça, c'est déjà déterminé dans tout l'arsenal juridique que nous avons. Et c'est ça l'avantage que nous venons d'avoir avec la ministre qui a signé tout ceci comme mesure d'application de la loi cadre qui est restée presque lettre morte depuis longtemps.
Et cette réponse est la même avec la préoccupation, on répond directement en fait à la préoccupation de l'auditeur de Goma, les géologues, parce qu'il a suggéré qu'il y a pour certaines matières, pour certaines filières, c'est compliqué d'organiser à 100% la formation à distance.
Tout à fait. Et par rapport à la relève académique, l'enseignement ouvert à distance, comme je disais tantôt, vient aussi assurer ou faciliter la relève académique. Aujourd'hui, on n'attendait plus vraiment des bourses pour se déplacer, mais on peut rester où on est.
Ou que les enseignants viennent forcément de Kinshasa.
Voilà. Et on peut prendre une inscription, mais on est suivi par la direction. Aujourd'hui, la direction de l'enseignement ouvert à distance devient la troisième direction érigée de services académiques chez nous, qui s'occupe de tout cela. Vous prenez et une inscription, au lieu que vous puissiez seulement vous limiter entre vous et l'établissement, il faut passer par la direction pour que vous puissiez vous faire enregistrer, afin que la direction puisse être au courant de où vous avez pris l'inscription, quelle formation est organisée et faire le suivi de manière.
Mais est-ce que vous avez déjà mis cette direction-là dans les universités de la place? Je sais par exemple la faculté de télétravail a été lancée il y a 2 ou 3 ans à l'INUKIN, mais est-ce que ces services-là, cette direction-là est déjà installée dans les différentes universités
supérieures de l'RDC? 2025, c'est l'année de l'enseignement ouvert et à distance en RDC. C'est l'année où nous sommes en train de tout structurer et de tout organiser. Il y a eu certes des initiatives privées prises ci et là et de leur manière, mais maintenant nous sommes en train de
formaliser
et de formaliser. Voilà pourquoi tout celui ou toute celle qui organise l'enseignement ouvert à distance doit savoir qu'il existe une direction bien structurée, bien assise, qui donne les directives de la tutelle.
On va aller cette fois-ci à Bounia, monsieur Thierry. Il y a un auditeur qui attend. Il s'appelle Georges Kilangalanga. Monsieur Georges, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Oui, bonjour monsieur Tati, bonjour aux auditeurs de la radio Okapi.
Nous vous donnons la parole.
Oui. Bien que l'enseignement en distance se présente plusieurs avantages, tels que dit notre invité, il y a également plusieurs défis. Et les autres ont cité quelques-uns. Et moi, je vais citer par exemple les défis liés à l'autonomie et à la discipline. Vous savez, même avec l'enseignement en présentiel, le problème, c'est qu'il y a même des étudiants qui ne viennent pas au cours. Il y a des étudiants qui... Moi, j'ai connu comme ça un étudiant en général, il ne vient pas au cours et à la fin, il veut réussir. Et encore avec la distance, ce problème sera beaucoup plus amplifié. Mais il y a également le problème de la tricherie. L'autre intervenant qui m'a précédé a parlé de l'évaluation. Dans cette évaluation, avec la distance, il y aura plus de tricherie. Moi, je propose à la République démocratique du Congo, parce que chez nous, on veut tout pasticher, on veut prendre tout, on imite tout, même si on n'est pas encore capable de faire. On peut travailler avec des universités qui existent. Moi, je vous dis, monsieur Tati, moi, je connais des universités où il n'y a pas même un seul ordinateur. Toute université au Congo, il n'y a pas un ordinateur. Mais vous venez avec cette réforme, moi je pense qu'on doit procéder graduellement, comme l'invité a dit. Commencer même avec le système, on combine enseignement présentiel et distanciel dans des universités qui sont d'abord capables d'aller à graduellement.
On
est des généralistes.
Des universités qui ont une bonne connexion, qui ont des ordinateurs, qui ont des plateaux techniques adaptés.
Voilà, on commence d'abord par ces universités. Si on généralise, je vous dis, monsieur Tati, on viendra créer plus de problèmes que de solutions avec ce système. Nous connaissons, nous sommes au Congo. C'est que l'invité est en train de dire là, des normes, oui, ça existe. Au Congo, il n'y a pas un problème de normes, il n'y a pas un problème de loi, mais l'application de ces lois, c'est ça tout le problème. Donc je pense qu'on peut aller graduellement, au lieu de généraliser un système qui risque d'encore devenir...
De désagréger encore la qualité de l'enseignement.
Exactement.
Merci beaucoup, M. Kilangalanga. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bounia, en Ituri, que vous avez pris la parole. Je me tourne vers vous, M. Thierry. Comment répondez-vous à notre auditeur qui intervient depuis la ville de Bounia?
Merci beaucoup, Monsieur le journaliste. Généralement, nous avons peur de l'inconnu, ouais. Mais quand on veut, on peut.
Il a aussi raison quelque part
dans ce qu'il dit, il a aussi raison. Et voilà pourquoi j'ai dit que 2025, c'est l'année de l'enseignement ouvert à distance.
Oui.
Il n'y a pas longtemps, nous avons été en formation avec un de mes collaborateurs. C'était toujours dans la volonté politique d'assurer la mise en forme rationnelle et réussie de ce mode d'enseignement. Nous avons été en formation en France, et là, on a eu des échanges, on a eu à visiter aussi des établissements qui organisent l'enseignement ouvert. Et bien évidemment, ils ont soulevé aussi ce problème de l'autonomie. Parce que, dites-vous, un élève, disons, un étudiant qui vient récemment des humanités, qui commence G1, rester seul, est-ce qu'il va être attentif, tout ça? Voilà pourquoi, dans les plateformes qui sont créées...
Il y a d'abord une étape de l'initiation.
Il y a une étape d'initiation, mais aussi des suivis, des tutorats. Nous avons été à Seine, vous avez un système de tutorat où vous avez quelqu'un qui suit les étudiants. Lorsqu'il trouve qu'il y a un relâchement, une, deux semaines, vous n'accédez plus à la plateforme, on vous rappelle, vous recevez les messages. Pour vous rappeler, les alertes pour vous dire, voilà, on constate que vous n'êtes plus actif à la plateforme. Donc c'est déjà un mécanisme de suivi, parce que dans la plateforme, nous en parlerons plus avec la plateforme de Vodacom, Vodaeduc. Donc il y a tous ces mécanismes qui assurent aussi les suivis et la discipline pour que l'on ait les étudiants qui puissent être régulièrement attentifs au cours. Bien évidemment, ce qu'il dit, nous n'allons pas aller vite dans la généralisation.
Oui.
Pourquoi nous parlons même des établissements pilotes?
Oui.
En tout cas, c'est la bonne pédagogie d'aller graduellement.
Oui.
Nous voyons.
Cibler d'abord les universités qui répondent aux critères.
Et c'est pourquoi nous disons que nous n'allons pas créer une université totalement en ligne pour le moment. Nous allons partir de l'existant. Et puisque l'arrêté nous reconnaît les systèmes hybrides comme aussi qui l'enseignement vers à distance, nous allons aller comme ça, évaluer petit à petit, faire le recadrage. Voilà, je crois que dans ce qu'il dit...
Il faut aussi souligner qu'on est déjà presque en mode d'enseignement à distance, parce que dans des universités, par promotion, on encourage de créer des groupes de travail par WhatsApp, par exemple, pour échanger, c'est partager des TP ou les questionnaires, tout ça. Donc on est déjà presque à l'étape de l'initiation
et
de l'appropriation.
Nous sommes déjà à l'étape de l'initiation et maintenant nous sommes en train de formaliser pour que, qu'il n'y ait pas seulement les étudiants, mais qu'il y ait aussi des tuteurs derrière, et qu'il y ait aussi des enseignants et des groupes bien structurés qui puissent faire des choses de manière que les titres qui seront délivrés soient des titres légalement reconnus et certifiés par la tutelle.
Mais aussi, il y a qui c'est Kilangalanga qui est... Non, c'est qui c'est Thomas, je pense, qui a évoqué le fait qu'il y a certains enseignants qui ont pris de l'âge et qui ne suivent pas les pas de l'évolution technologique, et ça risque d'être compliqué également pour cette catégorie des formateurs de s'adapter facilement.
Non, il existe, il y a aussi, donc le ministère pense à la mise en place des technopédagogues. Donc, dans chaque établissement, il y aura des techniciens informaticiens qui vont accompagner les enseignants. Parce que comme j'ai dit, il y a des enseignants qui n'ont pas fait la mise en œuvre,
la mise à jour ou le recyclage.
Ouais, ou le recyclage. Alors nous allons procéder par la formation des technopédagogues, ceux-là qui vont accompagner les enseignants.
Pour lancer par exemple les plateaux techniques, pour appuyer les boutons,
voilà,
s'il y a coupure, pour dépanner.
Et même pour mettre en place les cours, parce qu'un cours donné en présentiel n'aura plus le même nombre d'heures qu'en distanciel. Donc nous sommes en train de mettre en place cette équipe de formation qui d'ailleurs va commencer son travail. Après le lancement de la plateforme, nous allons revenir par la formation pour que nous puissions avoir cette équipe-là dans les établissements pilotes pour accompagner les enseignants.
Est-ce que vous avez déjà une idée sur quelques univs avec lesquels vous allez collaborer au lancement Parce qu'on est déjà en 2025, la rentrée académique, c'est au mois d'octobre, je pense.
Déjà, ici, à Kinshasa, pour votre information, demain, nous allons lancer la première plateforme d'enseignement en ligne en RDC avec la Haute École de Commerce de Kinshasa, FIEC.
Merci beaucoup, hein, Monsieur Thierry Abankoui. Et nous rappelons que vous êtes chef de service en charge de l'enseignement ouvert et à distance au ministère de l'ESU. Merci d'avoir été avec nous dans ces rendez-vous au Capi Service. Et excellente journée. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler hein, après les lancements officiels à l'école
à la haute école
supérieure. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.